L'heure était à la prière et à l'examen de conscience au Vatican après le tumulte de ces derniers jours. Benoît XVI et les membres de la Curie romaine participaient ainsi toute cette semaine aux exercices spirituels de carême prêchés cette année par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. Si les médias fébriles se livrent déjà à des conjectures quant au prochain successeur de Pierre, des fidèles du monde entier continuent d'exprimer leur affection pour Benoît XVI, des fidèles partagés entre tristesse, admiration et incertitude. Ainsi, la petite communauté catholique sri-lankaise ne cache pas son émotion, tout comme le cardinal Ranjit, archevêque de Colombo.
Les catholiques ici de Sri Lanka aiment beaucoup le Saint-Père. Avec gentillesse, avec une humilité très touchante. Benoît XVI a fait des choses très importantes pour la vie de l'Église. Nous sommes très, très heureux de lui. Il a donné à nous une guide évangélique comme Jésus. Nous sommes très touchés par lui. Pour nous, Benoît XVI était une grande figure de pape, témoignage de foi crédible pour nous. Pour les catholiques de Sri Lanka.
L'émotion reste également vive parmi les chrétiens du Moyen-Orient, petit troupeau cher au cœur de Benoît XVI, surtout au Liban, où le pape avait effectué en septembre dernier sa dernière visite apostolique. Une visite encore bien présente dans toutes les mémoires au sein des différentes communautés religieuses. Écoutez le témoignage de Fadi Noun, journaliste spécialiste des questions religieuses au journal libanais francophone L'Orient le Jour.
Touche, c'est que on l'a vu de près, on a vu son visage, on a appris à le connaître. Le Liban a vécu comme ça un moment de grâce à cause de cette unanimité qui s'est faite autour de lui. C'est comme l'histoire du grain de blé qui tombe en terre. Ça dépend de la terre, ça ne dépend pas seulement du grain.
N'oublions pas la Syrie. La violence dans le pays a fait fuir des centaines de milliers de Syriens qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. Ils vivent dans des camps, dans une situation extrêmement difficile. Beaucoup de femmes et d'enfants qui manquent de tout, nourriture, vêtements, médicaments, en plein hiver et dans un climat d'incertitude pour leur avenir. Un émissaire du pape les a rencontrés cette semaine en Jordanie. Le cardinal Robert Sarah, président du Conseil pontifical Corunum, a participé au forum régional des Caritas du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, consacré à la crise syrienne. De retour à Rome, il s'est dit bouleversé par les récents attentats qui ont frappé Damas et demande la fin des livraisons d'armes qui entretiennent le conflit syrien.
Tant qu'on ne cessera pas d'armer et le gouvernement et l'opposition, cette tragédie continuera tous les jours pratiquement. Il y a des morts, tous les jours il y a des morts. Et souvent des gens innocents, des enfants. Bon, chacun se lance la balle, c'est pas moi, c'est l'autre. Je crois qu'il faudrait arriver à ce que les armes n'arrivent plus en Syrie. Tant qu'on continuera à fournir des armes, nous aurons toujours ces tragédies, tous les jours pratiquement.
L'actualité de cette semaine aura aussi été marquée par l'enlèvement d'une famille française mardi soir dans le nord du Cameroun, puis transférée au Nigeria. Des sources militaires camerounaises avaient affirmé jeudi matin que les otages, 3 adultes et 4 enfants, avaient été retrouvés sains et saufs. L'information avait été ensuite confirmée, puis démentie, semant une grande confusion. Les recherches se poursuivent donc pour les retrouver. Les soupçons de Paris se portent sur le groupe islamiste nigérian Boko Haram, même si aucune revendication n'a encore été faite. Et alors que les forces de sécurité nigérianes tentent de mettre la main sur les ravisseurs, une question reste en suspens. Cet enlèvement aurait-il été planifié par Boko Haram? L'éclairage de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politologue et chargé de recherche au Centre Population et Développement à l'Université Paris-Descartes.
Je ne vois pas très bien comment Boko Haram aurait pu planifier et savoir qu'à ce moment précis, ce groupe de touristes en balade à l'intérieur du parc de Ouaza, qui est quand même assez grand, aurait pu se trouver là précisément à 1 kilomètre de la frontière nigériane. Mais je ne suis même pas sûr que la famille qui a été enlevée savait d'elle-même qu'elle serait à cet endroit-là précisément. Donc je ne crois pas beaucoup, moi, à la planification au vu des éléments qui ont pu nous être fournis, qui disent notamment que l'enlèvement s'est fait avec 5 motos, ce qui est absolument ridicule. Donc on n'est pas du tout dans le scénario planifié avec une colonne de pick-up, 30 hommes armés, ce qui est plutôt là le mode opératoire dans le Saro, de type Al-Qaïda, où là effectivement il y a de la planification, il y a de l'organisation. On a un peu l'impression que, au contraire, ça a été une rencontre un peu fortuite. Donc il n'y a pas forcément derrière une planification.
Le scandale de la viande de cheval continue de faire des vagues dans l'industrie agroalimentaire. Plusieurs entreprises comme Nestlé ou le brésilien JBS ont à leur tour annoncé le retrait de produits surgelés des rayons, comme des lasagnes ou des plats de pâtes. En France, l'entreprise Pinguero, suspectée de fraude pour avoir changé des étiquettes, a été de nouveau autorisée à reprendre le travail car aucun risque sanitaire n'a été détecté. Cette affaire de viande est donc avant tout psychologique. Il y a eu tromperie sur la nature de la viande. Et pour Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières et président de l'Observatoire de formation des prix et des marges en France, cette réaction est symptomatique de notre propre relation à notre alimentation.
Nous vivons des tensions contradictoires. D'une part, la modification de nos modes de vie fait que nous cherchons à acheter de plus en plus des produits prêts à être consommés. Mais en même temps, nous voulons avoir une image de ce produit qui va être le produit traditionnel venant de chez le sympathique petit agriculteur. Cette affaire d'État intervient sans que pour autant il y ait quelques risques sanitaires que ce soit. Jamais nous n'avons mangé dans une aussi grande sécurité alimentaire et paradoxalement, jamais il n'y a eu autant de peurs alimentaires.